Bonjour. Catherine Vitaud, de la cathédrale de Lausanne. Cette cathédrale n'est pas encore complètement sortie de la brume et du brouillard automnal. Mais elle va être toute illuminée de musique. Celle qu'André, lui, joue au grand orgue. Wir glauben all an einen Gott. Nous croyons tous en un seul Dieu. C'est la confession de foi de ceux qui, dans quelques minutes, vont entrer en cortège et marcher jusqu'au cœur pour être consacrés ou agrégés ministres de l'Évangile dans l'église évangélique réformée du canton de Vaud. Ils sont 12, comme les disciples. 2 diaconesses de Saint-Loup recevront la consécration diaconale. 6 jeunes hommes et 3 jeunes femmes recevront la consécration pastorale. Et un pasteur de l'église neuchâteloise sera admis dans le corps pastoral vaudois. Chaque année, le dernier mardi d'octobre, cette cérémonie a lieu. Que bon an, mal an, des hommes et des femmes entrent dans le service du Christ dans ce canton, parfois 10, parfois plus. On peut dire, en ces temps troublés, que c'est un miracle, un don fait à l'Église. Certes, il y a pénurie de forces ministérielles, ici comme ailleurs. Nous vous en reparlerons à propos du synode qui s'ouvre cet après-midi et dont cela va être une des préoccupations majeures. Mais ce matin, l'église vaudoise est en fête. Elle est dans la joie. Témoin cette cathédrale où se sont présentés pour promettre de service des centaines de ministres. Témoin cette foule de parents, d'amis, de représentants de l'État et des autorités ecclésiastiques et scolaires et universitaires qui les entourent jusqu'au dernier recoin. Et c'est un appel à tout le peuple de l'Église à se sentir convié, lui aussi, à être, comme chaque chrétien, à servir le Dieu de Jésus-Christ dans le ministère que Dieu lui confie. Tous membres du même corps, dont le Christ est la tête, tous qui confessent la même foi, wir glauben an all an einen Gott. Le cortège entrera pendant le cantique numéro 48.
Notre secours est en Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit, « C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Vous tous, habitants de la terre, faites monter vos cris d'allégresse vers le Seigneur. Servez le Seigneur avec joie. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui, nous sommes son peuple et le troupeau dont il est le berger. C'est moi qui vous ai choisi et établi, dit le Seigneur.
Le chœur de l'école normale va interpréter sous la direction de François Forestier un fragment du Gloria d'Antonio Vivaldi pour chœur et orgue. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Monsieur René Favre.
Prions. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons d'avoir maintenu ton Église parmi nous, afin qu'elle rende témoignage à ton Fils, et nous te louons pour tous ceux qui, de génération en génération, ont été par ta grâce tes fidèles serviteurs. Nous t'en prions, affermis notre foi, pour que nous te servions nous aussi avec joie. Accorde à ce synode, réuni au nom de Jésus-Christ, le secours du Saint-Esprit et bénis la prédication de ton Évangile. Que nous soyons conduits dans toute la vérité, préservés de la discorde, gardés de toute vaine gloire, et que nous marchions ainsi dans l'unité qui t'est agréable et que tu nous as donnée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous écoutons la parole qui est tirée du livre d'Ézéchiel au chapitre 34. Voici ce que je déclare, moi, le Seigneur Dieu. À partir de maintenant, je vais m'occuper de mon troupeau et en prendre soin moi-même. Je prendrai soin de le regrouper, comme le fait un berger lorsque son troupeau est complètement éparpillé. J'irai rechercher mes bêtes partout où elles ont été dispersées un jour de grand orage. Je les retirerai du milieu des peuples et des pays étrangers où elles se trouvent. Je les rassemblerai et les ramènerai dans leur pays. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, au creux des vallées et dans tous les endroits habitables du pays. Je les mènerai dans un bon pâturage. Elles auront leurs prairies sur les montagnes du pays d'Israël. Oui, elles auront là de belles prairies pour y faire halte et de gras pâturages pour y paître. Je serai le berger de mon troupeau. Je le mettrai à l'abri. C'est moi, le Seigneur Dieu, qui l'affirme. J'irai chercher la bête qui s'est perdue, je ramènerai celle qui s'est écartée du troupeau, je panserai celle qui s'est blessée, je rendrai des forces à celle qui est malade, mais j'éliminerai celle qui est trop grasse ou vigoureuse. Je serai le berger dont mon troupeau a besoin.
Le cœur chante, nous te rendons grâce pour ta gloire infinie avant la lecture de l'Évangile.
Dans la première épître de Pierre, nous tirons ces versets du chapitre 5. Je m'adresse maintenant à ceux qui parmi vous sont anciens d'Église. Je suis ancien, moi aussi. Je suis témoin des souffrances du Christ et j'aurai part à la gloire qui va être révélée. Voici ce que je leur demande. Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui avec bonne volonté, comme Dieu le désire, et non à contre-cœur. Accomplissez votre tâche, non par désir de gagner de l'argent, mais par dévouement. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Et quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat. Mais après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans l'union avec le Christ, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. La troisième lecture est tirée du livre de Matthieu, au chapitre 9. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qui voyaient, car ces gens étaient fatigués et découragés, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il dit alors à ses disciples, « Il y a une grande moisson, mais peu d'ouvriers pour la rentrée. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer plus d'ouvriers pour rentrer sa moisson. Amen. »
Chant du Cantique 212, les trois strophes. 212, les trois strophes.
Nous lisons encore ce passage tiré du deuxième chapitre de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens qui fera l'objet de notre méditation ce matin. Grâce soit à Dieu qui, par le Christ, nous emmène en tout temps dans son triomphe et qui, par nous, répand en tout lieu le parfum de sa connaissance. De fait, nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ, pour ceux qui se sauvent et pour ceux qui se perdent. Pour les uns, une odeur de mort qui conduit à la mort. Pour les autres, odeur de vie qui conduit à la vie. Et qui est à la hauteur d'une telle mission? Nous ne sommes pas en effet comme tant d'autres qui trafiquent de la parole de Dieu. C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, à la face de Dieu, dans le Christ, que nous parlons. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, vous tous qui êtes rassemblés dans cette cathédrale et vous qui vous associez à ce culte par le moyen des ondes, on cherche berger. Sous ce titre, un trihebdomadaire du Chablais vaudois rendait compte l'autre jour de l'un des objets à l'ordre du jour de la session ordinaire du Synode, dont nous vivons présentement, le culte d'ouverture. On cherche berger. C'est vrai. Cependant, Dieu merci, le Seigneur nous en donne 12 aujourd'hui. Certes, Ce cadeau ne résoudra pas la pénurie lancinante qui pèse lourdement dans la vie de notre Église. Et les perspectives de l'avenir demeurent plus ou moins sombres. Cependant, et c'est pour moi un sujet d'émerveillement, année après année, le Seigneur donne à son Église les serviteurs et les servantes dont elle a besoin, même si leur nombre, humainement parlant, est insuffisant. Et pour ce cadeau, pour cette fidélité du Seigneur à l'égard de son Église, nous ne pouvons que dire merci. Merci au Seigneur et le prier inlassablement pour qu'il suscite de nouvelles vocations parmi les fidèles de notre Église. On cherche berger, la réalité demeure. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans son champ. Face à la pénurie pastorale, notre Église envisage plusieurs possibilités, dont celle dans l'immédiate, de regrouper provisoirement une ou deux paroisses sous le ministère d'un seul et même ministre. Ce qui amène notre journaliste de tout à l'heure à se demander, va-t-on vers des super pasteurs? Qu'est-ce à dire? Serait-ce que l'on verrait peut-être se profiler dans notre Église des pasteurs de choc, des champions de l'Évangile, des ministres revêtus d'une autorité exceptionnelle et dont on attendrait qu'ils fassent des miracles dans les circonstances difficiles que traverse notre Église? Serait-ce que les fidèles seraient en droit d'exiger de ces futurs super-pasteurs d'être des hommes de Dieu de qualité supérieure qui prêchent l'Évangile avec éclat? Des super-pasteurs, l'Église de Corinthe en a connu et en a souffert. Des apôtres par excellence, c'est ainsi que Paul les désigne, sont venus dans cette ville annoncer un évangile flatteur, contester le ministère de Paul en prétendant qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il les trompe, qu'il leur a présenté un évangile faussé. L'apôtre s'est vu contraint de défendre et de justifier son ministère. Et il le fait dans cette deuxième lettre aux Corinthiens qui est proposée ces semaines à la méditation des fidèles et que Pain quotidien, Pain de ce jour, commente jour après jour. Cette lettre, qui est probablement un assemblage de plusieurs fragments de lettres diverses que Paul adressait aux Corinthiens, m'apparaît pourtant comme une admirable symphonie bâtie sur un thème unique, repris sous de multiples formes, au travers desquelles l'apôtre ouvre son cœur à ses lecteurs afin qu'ils puissent y discerner le trésor que Dieu y a déposé. La péricope de ce mardi 30 octobre, où il est question de ce trésor, Christ mort et ressuscité, ce trésor que nous portons dans des vases de terre, afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous, est l'une de ces variations du thème énoncé dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. À ces super apôtres qui annoncent un évangile éclatant, utilisant Dieu comme instrument de leur prédication, se montrant à la hauteur de leur mission par toutes sortes d'expériences spirituelles enthousiastes et exaltantes, et finalement se prêchant eux-mêmes, Paul oppose un apostolat dans la faiblesse et la fragilité. Un évangile qui est un scandale, comme un rocher sur lequel viennent se briser et se séparer les eaux d'un cours d'eau. À vouloir proclamer un évangile glorieux et s'en montrer digne et à la hauteur, ces super apôtres trafiquent la parole, font commerce de l'évangile. Paul commence par bénir Dieu de l'emmener en triomphe en Christ, utilisant ici l'image du cortège triomphal d'un général victorieux, ou peut-être l'image du triomphe d'un vainqueur dans les jeux du stade. Ce triomphe dans lequel Dieu le traîne, car c'est de Dieu et de Dieu seul qu'il tient sa mission, comme c'est de Dieu et de Dieu seul que nous tenons notre ministère de diacre ou de pasteur, comme c'est à Dieu seul que nous sommes redevables pour notre vocation de chrétien, ce triomphe n'a rien de glorieux, rien d'éclatant, rien qui attire les regards. C'est au contraire un cortège minable qui gravit dans les marches d'un podium où seront distribuées les médailles d'or, d'argent et de bronze, mais le chemin caillouteux, raide, où marchent trois condamnés qui vont être exécutés au sommet d'une colline de Jérusalem. La foule passe près du lieu du supplice, quasi indifférente. Quelques passants, ayant entendu prêcher le crucifié du milieu, le raillent, l'insultent. L'un des condamnés s'adresse à lui, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. Les représentants de la religion officielle l'insultent. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Et c'est un affreux païen, un Romain honni, un officier, qui va donner la clé de ce drame. Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Voilà le triomphe. Voilà la gloire dans laquelle Paul est conduit par Dieu en Christ. C'est le triomphe de l'amour qui se donne, le triomphe de l'abaissement le plus total par lequel Dieu manifeste sa puissance et sa victoire. Voilà la bonne nouvelle que proclame Paul et qu'à sa suite nous sommes appelés à prêcher, dont nous avons tous à être les témoins. Nous qui, comme Paul, sommes traînés dans le cortège du triomphe de Dieu. Dans ce triomphe, où la puissance de Dieu se manifeste au travers du sacrifice du Christ, Paul se considère comme un prisonnier. Moi, le prisonnier du Christ, comme il l'écrit aux Éphésiens, par exemple. Un captif qui, tel l'esclave dans les triomphes romains, brûlant le parfum en l'honneur du vainqueur, répand le parfum de la connaissance de Dieu, manifesté en Christ, mort et ressuscité. Selon l'idée antique que le parfum est le signe de la présence divine, Paul pousse plus loin la comparaison et se compare, lui et sa prédication, à un parfum d'agréable odeur à Dieu. Nous sommes le parfum de Christ, agréable à Dieu. Ce parfum qu'il répand, ce parfum dont il brûle, renvoie au sacrifice de Jésus pour le salut de ses créatures, de même que Dieu reçoit la prédication à la personne de Paul, comme Dieu a accepté le sacrifice de Jésus. L'apôtre ne cherche pas sa gloire. L'apôtre n'a pas d'autre souci que de plaire à Dieu, qui accepte que sa parole passe au travers de la fragilité de l'apôtre, la manifestation de la gloire de Dieu passe au travers de la frêle personne de Paul, comme elle a passé au travers de Golgotha. Au travers de cette image du parfum, on pressente aussi l'amour ardent que Paul porte à son Dieu et du souci extrême qu'il a de lui plaire, quitte à être l'objet de la contestation humaine. Mais Paul est aussi conscient de l'immense responsabilité que Dieu a mise en lui. Ce parfum qu'il répand, cette odeur agréable à Dieu, n'est pas du goût de tout le monde. Elle choque, elle heurte, elle divise, elle opère un tri parmi ceux qui la reçoivent. Odeur de mort pour les uns, odeur de vie pour les autres. La prédication de la croix est scandale, folie pour les uns, puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés, comme l'apôtre l'avait écrit dans sa première lettre aux Corinthiens. L'apôtre et la prédication de la croix ont une odeur de mort pour les uns, une odeur de vie pour les autres. Pour ceux qui s'attendent à une manifestation éclatante de Dieu, pour ceux qui prônent un évangile triomphaliste, qui ne peuvent ni ne veulent accepter que la puissance de Dieu se révèle dans le sacrifice du calvaire, pour ceux qui ne voient dans la personne de l'apôtre que ses faiblesses, sa fragilité, les tracas de toutes sortes qu'il rencontre dans son ministère, la prédication de l'apôtre ne signifie rien. Elle part de la mort pour conduire à la mort. Mais pour ceux qui savent discerner au travers des faiblesses même de l'apôtre, au travers de son apostolat dans la fragilité, pour ceux qui savent y discerner la puissance de Dieu, comme elle s'est révélée dans l'événement de la croix, cette prédication, partant de la vie que le Seigneur offre par sa mort, est source de vie pour ceux qui croient. En prêchant la croix comme il le fait, en répandant le parfum de la connaissance et en brûlant le parfum du Christ, l'apôtre engage un processus qui entraîne les uns sur le chemin de la perte, les autres sur le chemin du salut. Comme la croix, sa personne et sa prédication place les hommes devant un choix existentiel qui engage l'avenir dernier de l'homme. En prêchant la croix, en proclamant le Christ mort et ressuscité, Paul, pourrait-on dire, reprend à son compte la parole de Dieu telle qu'elle est retransmise dans le Deutéronome. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Mais qui est à la hauteur pour proclamer un tel message, qui est suffisant pour apporter une telle proclamation qui va engager les auditeurs ou les lecteurs dans un processus où se joue le sort éternel de l'homme. Paul n'a aucun titre de gloire à présenter, aucune lettre de recommandation à faire valoir, aucun diplôme dûment signé à mettre en avant, comme le font les super-apôtres qui contestent son ministère. Paul, lui, ne veut en aucun cas chercher à appâter ses lecteurs ou ses auditeurs en trafiquant la parole de Dieu, en occultant ce qu'elle peut avoir de scandaleux ou de fou. Il est sincère et ne se prêche pas lui-même comme le font ses adversaires, car tout ce que l'on met au compte de l'homme, on l'enlève à Dieu. Se réclamant de Dieu et de Dieu seul, se plaçant sous la souveraineté du Christ crucifié, se plaçant devant la responsabilité de Dieu, il s'efface devant la grandeur et la puissance du Seigneur. Il veut rester faible pour que la puissance de Dieu agisse au travers de lui, sans se laisser aller à des compromissions, des flatteries, et sans tomber dans la tentation d'en imposer aux autres comme s'il était un champion de l'Évangile. Sa seule justification, sa seule défense, c'est la grâce de Dieu suffisante, la puissance de Dieu agissante au travers de sa faiblesse, comme il l'écrit plus loin dans la même épître. Voilà donc, frères et sœurs, comment, face à ceux qui contestent son ministère, Paul défend et justifie son apostolat. Nous ne sommes pas Paul. Son apostolat n'est pas le nôtre. Nous ne sommes pas non plus l'Église de Corinthe. Cependant, ce qui s'y est passé, ce que Paul a été amené à écrire à ses paroissiens, nous concerne directement les uns et les autres, nous interpelle sérieusement. On reproche ici et là à l'Église de ne pas faire le poids dans notre monde contemporain. On souhaiterait qu'elle s'affirme avec plus d'autorité, qu'elle soit à la hauteur de sa tâche. On rêve parfois d'une Église triomphante, revêtue d'une certaine auréole et qui manifeste sa présence et son action avec plus d'éclat, afin de regagner les foules qui s'en sont écartées et qui vivent en marge d'elles. On souhaiterait parfois des diacres et des pasteurs qui entraînent leurs paroissiens dans une marche triomphale, qui suscitent par une prédication rutilante un zèle renouvelé et une foi solide parmi leurs ouailles. On attend, ici et là, de l'Église et de ses ministres, des révélations sensationnelles, des témoignages qui entraînent les fidèles dans des manifestations extatiques de l'esprit, dans des expériences de guérison, de prophétie, de parler en langue. Des super pasteurs pourraient peut-être, comme les super apôtres du temps de Paul, répondre à ses attentes et satisfaire le goût du merveilleux et du sensationnel. Des super pasteurs pourraient peut-être tenter de donner à l'Église une couronne de laurier dont certains voudraient la voir ornée. L'apôtre nous met en garde les uns et les autres contre cette tentation de triomphalisme, comme il nous invite à sa suite à ne pas trafiquer la parole de Dieu en la mettant au goût du jour pour plaire aux hommes, pour répondre à leurs désirs et à leurs aspirations spirituelles et religieuses, ou satisfaire la religiosité naturelle de l'être humain. L'Église, ses ministres et ses fidèles n'ont d'autre auréole que la couronne du crucifié. L'Église, captive du Christ, comme Paul l'était de son Seigneur, les ministres, esclaves du Seigneur, comme Paul l'était de son Seigneur, les fidèles, entraînés comme Paul dans le cortège de triomphe de Dieu en Christ, mort et ressuscité, n'ont d'autre message à apporter au monde, dans notre pays, que la parole de la croix qui passe au travers de nos simples paroles d'homme et de nos humbles témoignages humains. Tel est le parfum qu'à la suite de Paul nous avons à répandre, ce parfum qui toujours renvoie au Christ mort et ressuscité. Amen.
Frères et sœurs, deux candidates au ministère diaconal et 9 candidates et candidats au ministère pastoral ont été entendus par la commission de consécration. Elle s'est informée de leur foi et de leur engagement. Elle a reconnu leur vocation et constaté la régularité de leur formation. Elle a également entendu un pasteur déjà consacré par une autre église réformée. Elle recommande à l'église de les consacrer à leur ministère et d'agréger notre frère au corps pastoral de l'église évangélique réformée du canton de Vaud.
Nous accueillons avec joie ces frères et sœurs qui se mettent au service de l'Église. Au nom de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud et au nom du gouvernement vaudois qui nous en ont confié la mission, nous allons recevoir d'eux la promesse qui les lie à leur charge et qu'ils se sont engagés à tenir en apposant leur signature dans les registres des diacres et des pasteurs de notre Église. Chacun des candidats, à l'appel de son nom, lèvera la main droite et dira « Je le promets ». Mes sœurs, qui demandait la consécration diaconale. Vous promettez de servir vos frères avec un entier dévouement au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que leur propre service auprès des hommes en soit stimulé. Vous promettez d'accomplir fidèlement votre ministère particulier dans la célébration du culte et l'exercice de la miséricorde. Vous promettez, à la place qui est la vôtre dans la mission de l'Église, de chercher toujours, pour le bien du pays, ce qui unit et non ce qui divise, d'observer la discrétion qu'impose le ministère et d'être pleine de charité envers tous. Vous promettez toutes ces choses dans la communion de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, au nom de Jésus-Christ le Seigneur, comme vous voulez qu'il vous assiste à votre dernier jour. Sœur Marguerite Laurent, Sœur Christiane Palares, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, qui demandez la consécration pastorale, ou l'agrégation au corps pastoral de cette Église. Vous promettez de prêcher la parole de Dieu dans sa pureté et son intégrité, telle qu'elle est contenue dans l'Écriture sainte, de rassembler et d'édifier le peuple de Dieu et de remplir en votre âme et conscience les devoirs d'un pasteur de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. Vous promettez de rechercher en toutes circonstances le bien véritable du pays en lui annonçant l'Évangile avec une entière liberté selon que Dieu le commande. Vous promettez de veiller fidèlement sur ceux dont vous aurez la charge. Vous observerez la discrétion qu'impose le saint ministère. Vous promettez toutes ces choses au nom de Jésus-Christ le Seigneur, comme vous voulez qu'il vous assiste à votre dernier jour. Aline Lasser, Dominique Rapin, Martine Rochat,
Daniel Glor, Jean-François Habermacher, Martin Heuger, Bernard Hort, Serge Mola, François Pacot, François Altermat. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Avant la consécration, c'est l'appel à l'Esprit Saint par le chant du cantique 328.
Seigneur Dieu, Père céleste, nous te rendons grâce pour la grandeur de ton amour. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour être notre Sauveur. Par sa mort, il a vaincu la mort. Dans sa résurrection, il a pleinement accompli notre salut. Il est monté au ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit sur son Église. Il a répandu ses dons sur les hommes. Il a suscité des apôtres et des témoins. Nous proclamons ainsi ta grande bonté qui nous permet de te consacrer aujourd'hui de nouveaux serviteurs. Nous t'en supplions, ô Dieu. Envoie ton Saint-Esprit sur notre sœur, Marguerite Laurent. Nous la consacrons à ton service pour être diacre dans ton Église, afin qu'elle forme et entraîne ton peuple au service et au témoignage dans le monde. Envoie ton Saint-Esprit sur notre sœur Christiane Palares. Nous la consacrons à ton service pour être diacre dans ton Église, afin qu'elle forme et entraîne ton peuple au service et au témoignage dans le monde. Envoie ton Saint-Esprit sur notre sœur Aline Lasserre. Nous la consacrons à ton service pour être pasteur dans ton Église, afin qu'elle rassemble ton peuple par ta parole et par tes sacrements. Envoie ton Saint-Esprit sur notre sœur Claire Dominique Rapin. Nous la consacrons à ton service pour être pasteur dans ton Église, afin qu'elle rassemble ton peuple par ta parole et par tes sacrements. Envoie ton Saint-Esprit sur notre sœur, Martine Rocha. Nous la consacrons à ton service pour être pasteur dans ton Église, afin qu'elle rassemble ton peuple par ta parole et par tes sacrements. Envoie ton Saint-Esprit sur notre frère Daniel Gore. Nous le consacrons à ton service pour être pasteur dans ton Église, afin qu'il rassemble ton peuple par ta parole et par tes sacrements. Envoie ton Saint-Esprit sur notre frère, Jean-François Habermacher. Nous le consacrons à ton service pour être pasteur dans ton Église, afin qu'il rassemble ton peuple par ta parole et par tes sacrements. Envoie ton Saint-Esprit sur notre frère Martin Heuguer. Nous le consacrons à ton service pour être pasteur dans ton Église, afin qu'il rassemble ton peuple par ta parole et par tes sacrements. Envoie ton Saint-Esprit sur notre frère Bernard Hort. Nous le consacrons à ton service pour être pasteur dans ton Église, afin qu'il rassemble ton peuple par ta parole et par tes sacrements. Envoie ton Saint-Esprit sur notre frère Serge Mola. Nous le consacrons à ton service pour être pasteur dans ton Église, afin qu'il rassemble ton peuple par ta parole et par tes sacrements. Envoie ton Saint-Esprit sur notre frère François Paco. Nous le consacrons à ton service pour être pasteur dans ton Église, afin qu'il rassemble ton peuple par ta parole et par tes sacrements. Seigneur Dieu, qui appelle des hommes faibles et pécheurs à une charge si grande. Manifeste ta force dans leur faiblesse. Garde-les fidèles à l'Évangile, humbles et courageux dans leur ministère. Bénis leur travail pour ta gloire, pour l'édification de ton Église et le salut des hommes. Exauce notre prière par Jésus-Christ notre Seigneur, auquel comme à toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères, vous êtes désormais associés à nos travaux. Nous sommes ouvriers avec Dieu. La paix du Seigneur soit avec nous. Nous appelons maintenant la bénédiction de Dieu sur notre frère agrégé au corps pastoral, François Altermat, Au nom de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, nous vous tendons la main d'association et nous invoquons sur votre ministère l'assistance du Saint-Esprit. La paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous soit en aide. Quand vous annoncerez la parole de Dieu, quand vous instruirez la jeunesse, quand vous administrerez les sacrements, quand vous visiterez les pauvres et les malades, quand vous consolerez les affligés, quand vous assisterez les mourants, que Dieu vous donne de parler et d'agir sous la conduite du Saint-Esprit, afin que tout se fasse pour l'avancement de son règne et la gloire de son nom. Amen.
Dieu notre Père, nous remettons à ta sagesse et à ton amour les autorités de notre canton, afin qu'ils assument les responsabilités qui leur incombent dans un souci de justice et d'intégrité. Qu'ils n'oublient pas que toi seul es Seigneur du monde. Nous remettons à ta grâce et à ton amour le synode qui s'ouvre par ce culte, afin que face aux difficultés qui se présentent à l'Église, ils sachent mettre toute leur confiance dans ta fidélité. Inspire leurs décisions et leurs travaux.
Seigneur, nous te prions pour ton Église, répandue partout sur la terre. Et nous te remettons en particulier ce matin l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, qui accueille de nouveaux ministres. Nous te prions pour son conseil synodal, pour ses pasteurs et ses diacres, pour chacune de ses paroisses et pour le peuple de ses fidèles. Nous te confions les nouveaux ministres qu'elle reçoit aujourd'hui. Donne-leur joie et persévérance dans les tâches qui les attendent. Et avec eux, nous te remettons leurs familles, leurs parents, leurs amis, les paroisses ou les institutions dans lesquelles ils travailleront. Seigneur, bénis ton Église et conduis-la vers l'unité.
Seigneur, nous te prions pour le monde qui nous entoure, pour tous les peuples, pour ceux qui les gouvernent, afin qu'ils luttent sans relâche à construire la paix dans un esprit de justice. Nous te prions pour ceux qui ne connaissent pas la libération et la vie que tu veux offrir à tous les hommes, afin que tu te révèles à eux dans ton amour infini. Nous te prions pour les malades du corps, de l'âme et de l'esprit, pour les handicapés, pour les mourants, afin qu'en toi, ils trouvent la paix et l'espérance dont ils ont besoin. Nous te prions pour les prisonniers, pour ceux qui sont condamnés à l'exil, aux mauvais traitements, pour les oubliés de la société, pour les étrangers parmi nous, pour les chômeurs, pour ceux qui sont sans ressources, sans famille, sans abri. Rends-nous solidaires de tous ceux qui souffrent. Que notre service soit efficace, bienfaisant et aide à la suppression de la misère.
Ô Dieu, c'est au nom de ton Fils que nous t'apportons ces prières, celles que nous avons exprimées comme celles que nous avons formulées dans le secret de nos cœurs. Comme le pain qui va être rompu, autrefois dispersé dans les campagnes, a été recueilli et réuni, qu'ainsi ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de l'univers pour ton royaume. Amen.
Thank you.
Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et partout. À toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa mort et sa résurrection, il a accompli une œuvre merveilleuse. Car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. En lui, nous sommes une nation sainte, un peuple racheté, une race choisie, un sacerdoce royal, pour annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les témoins de la foi, nous proclamons ta gloire en chantant d'une même voix. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Puis il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. En vérité, je vous le déclare, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Père saint et juste, nous nous souvenons du sacrifice offert une fois pour toutes sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la joie de sa résurrection et l'attente de sa venue, nous nous offrons à toi. Purifie-nous et renouvelle-nous dans la certitude de ton pardon. Fais-nous vivre de la vie du ressuscité, qu'il demeure en nous et nous en lui. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit donné de communier au corps et au sang de ton Fils. Par lui, tu crées, tu sanctifies et tu donnes la vie. À lui soit la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Au nom de ton Fils, autour de cette table, nous pouvons dire d'un seul cœur et d'une même voix la prière de tes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Nous ne sommes pas dignes que tu entres chez nous. Mais tu as dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. »
Nous allons quitter cette cathédrale de Lausanne pendant que se poursuivra le repas, la sainte scène de ce culte de consécration. 12 ministres y ont été consacrés ou agrégés. Permettez-moi de vous rappeler leurs noms pour que vous puissiez penser à eux, prier pour eux et leur travail en paroisse ou en milieu professionnel. L'Église a une responsabilité de soutien vis-à-vis de ses ministres. Ont été donc consacrés sœur Marguerite Laurent, née à Payerne en 1951, diaconesse de Saint-Loup, qui s'occupe de l'accueil à la cathédrale. Sœur Christiane Palares, née à Saint-Imier en 1949, elle aussi diaconesse de Saint-Loup et collaboratrice au Centre pour toxicomanes et jeunes en détresse à Vérossa, en Valais. Daniel Glore, né à Vevey en 1954, pasteur auxiliaire à Nyon. Jean-François Habermacher, né à Payerne en 1954, un pasteur qui va poursuivre des études à Neuchâtel. Martin Hoguer, né à Zurich en 1955, qui est pasteur auxiliaire à Clarens. Bernard Hort, né à Berne en 1958, qui est pasteur auxiliaire à Reims. Aline Lasser-Junt, née en France, à Héricourt, en 1958, pasteur auxiliaire à Bellevaux, à Lausanne. Serge Mola, né à Vevey en 1955, pasteur qui occupera l'un des postes de la paroisse de Cossonay-Grancy. François Pacot, né à Prévonloup en 1958, pasteur auxiliaire à Chezeaux. Claire-Dominique Rapin-Buxel, née à Lausanne en 1959, pasteur auxiliaire à mi-temps à la Croix-d'Ouchy à Lausanne. Martine Rocha-Sarrazin, née à Genève en 1954, soutiendra le travail de son époux, le pasteur Vigile Rossa, à Saint-Livre-Yan. Enfin, François Altermann a été accueilli dans le chœur pastoral vaudois. Il dirige depuis 1979 la section adolescence de l'Agence romande d'éducation chrétienne. Ont participé à la liturgie de ce culte de consécration André Louis à l'orgue. Nous avons entendu deux chorales de Bach. Nous croyons en un seul Dieu et maintenant prions et louons tous le Seigneur. Le chœur de l'école normale, sous les directions de François Forestier, a interprété des fragments du Gloria de Vivaldi. Et c'est le pasteur Fred Yermann qui a présidé ce culte et en a été le prédicateur. Quant à Jean-Daniel Chapuis, président du conseil synodal, il a été le pasteur consacrant.